Nous sommes en compagnie de Gilbert Rozon et je dirais aussi de Charles Drenet parce que je sens qu'il est avec nous.
Pour une rare fois, parce que je ne dis pas que je suis encore dans un déni vis-à-vis de sa mort. Beaucoup de mes grands amis sont morts, et mon père, bien sûr, et tout ça. Ça prend du temps à faire des deuils. Dans le cas de Drenet, je ne suis jamais arrivé à le faire. Et pas que je suis triste. Mais j'ai de la difficulté, écoutez, Drenet, quand vous m'avez demandé de faire un choix de chansons, j'ai préféré qu'il y ait un maximum de chansons de Charles Drenet parce que je ne le fais jamais. Pour moi, Drenet, pendant 20 ans, ça a été mon bonheur quotidien. Il est parti. Quand j'écoute du Drenet, c'est presque abstrait. J'ai l'impression que c'est un monde parallèle. Alors, le ramener, ça me fait du bien, mais en même temps, je ne le referai pas demain.
On a un petit cadeau pour vous. On est allé fouiller dans les archives et on a retrouvé ce duo, parce que vous parliez des mégastars. Oh oui. Georges Brassens, sans aucun doute, en est une. Alors, Charles Drenet et Georges Brassens se mettent à parler. Ça date des années 63, 64, je crois. Se mettent à parler de l'importance de la chanson. Et c'est Brassens qui chante les chansons de Drenet. Alors, le duo Charles Drenet et Georges Brassens, ce sont des archives de ce qu'on appelait autrefois l'ORTF.
Lorsque je me trouvais à Marseille, le samedi soir, en permission, quand j'étais soldat, j'allais chanter dans un petit bar, un cabaret, qui s'appelait La Mélodie Tyrolienne et qui était situé dans les sous-sols du Grand Hôtel de Marseille. Et là, après la représentation, je ne restais pas là. J'allais au Grand Café qui appartenait également au directeur de La Mélodie Tyrolienne. Et ce Grand Café m'enchantait car il était à la fois poétique et très amusant. Il y avait l'atmosphère des premiers films de Charlot, atmosphère d'aquarium, de plantes vertes, avec des joueurs de manille qui fumaient et crachaient. Et je n'ai eu qu'à ouvrir les yeux et les oreilles pour composer, sur place même, là-bas, la chanson « Le Grand Café » que voici.
Au Grand Café, vous êtes entrés par hasard, tout éblouis par les lumières du boulevard, bien installés devant la grande table, vous avez bu. Quelle soif indomptable, de beaux visages fardés, vous disiez bonsoir, et la caissière se levait pour mieux vous voir. Vous étiez beau, vous étiez bien coiffé, vous avez fait beaucoup d'effets au Grand Café. Comme on croyait que vous étiez voyageur, vous avez dit des histoires d'un con blagueur, bien installé devant la grande table. On écoutait cet homme intarissable. Tous les garçons jonglaient avec Paris Soir et la caissière pleurait au fond de son tiroir. Elle vous aimait, elle les aurait griffés, tous ces gueulards, ces assoiffés du Grand Café. Par terre on avait mis de la cire de bois pour que les cracheurs crachassent comme il se doit, bien installés devant la grande table. Vous invitiez des ducs, des connétables. Quand il fallut payer, soudain l'addition, vous avez déclaré, moi j'ai peint rond, cette phrase-là produit un gros effet, on confisque à tous vos effets, vous étiez fait au Grand Café. Depuis ce jour, depuis bientôt 60 ans, c'est vous le chasseur, c'est vous le comme il restaurant, vous essuyez toujours la grande table. C'est pour payer cette soirée lamentable. Ah, vous eussiez mieux fait de rester ailleurs que d'entrer dans ce café. Plein de manieurs, vous étiez beau. Le temps vous a défait, les mythes commencent à vous bouffer. Au Grand Café, au Grand Café.
C'est extraordinaire. Je me demande, Brassens, quand je vous entends chanter le Grand Café, si je rêve, si vous êtes là réellement, vous êtes là. Hein?
Vous rêvez un petit peu, je ne suis jamais tout à fait là.
Oui. Ah, je m'en doutais. Vous en connaissez des chansons, savez, hein? Et des miennes.
Les vôtres en particulier, je les connais à peu près toutes. Et j'en connais même de temps en temps que vous avez oublié. Par exemple, celle-ci, je suis sûr que vous n'en souvenez pas trop.
La marquise est bien vieille.
Oh.
Elle reçoit dans un salon râpé où tout est des luxe et pauvreté.
Oui, alors je crois que comme on s'ennuie, on regarde les cadres.
Elle dit, ça c'est mon chien, ça c'est mon chat. Et c'est mon commandant d'escadre, c'est mon pauvre mari qui est mort au Canada. Le mari, c'était pas le duc, je pense. Oui. Ce duc, vous vous en souvenez de ce duc?
De quel duc?
À qui tout appartenait,
tout est au duc ici, monsieur, tout est au duc, tout est au duc, tout est au duc.
possède à lui seul des millions de ducats.
Oui, vraiment, monsieur, c'est fou ce que le duc a.
Le duc a tout, monsieur,
pour être un homme heureux, mais le duc est très malheureux.
Depuis 20 ans, il a perdu ses cheveux, il est nerveux, et nous cherchons en vain depuis un truc
pour faire pousser les poils du duc.
Il y en a une aussi que j'aime beaucoup et que je regrette de ne pas vous entendre chanter souvent, c'est Le Petit Oiseau.
Ah, vous êtes joli,
non, ça, petit oiseau. Non, ça c'est autre chose, c'est un autre oiseau, un véritable oiseau. Là.
Ah oui, petit oiseau,
oiseau
dans, la
dans la campagne.
Ah oui, mon Dieu, dans quel temps c'était ça
Anut.
Anut, bon, alors
Anut.
Anut. Petit oiseau dans la campagne, petit oiseau n'est pas bien. Petit oiseau sur la montagne s'en va, ne sait quand il reviendra. Petit oiseau dans la nature, ivre d'amour et d'air pur. Chante gaiement pourvu que ça dure, ça va, petit oiseau reviendra. Mais le diable qui bat sa femme, après 3 litres de vin, lance furieux de longues flammes son vin. L'oiseau pleure en vain. La 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 la. S'il avait écouté sa mère, bien sagement il aurait un bon foyer et un bon lit dans son nid. Ah, s'il n'était pas parti. La 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 la. Vous avez bien compris, mesdames, pourquoi ce regard moqueur. Petit oiseau, c'est mon cœur.
Bravo,
qui pourvoit toute semaine.
Assez formidable d'écouter cela.
Ah, un grand moment.
Vous disiez que vous n'écoutiez pas beaucoup de René.
Mais j'ai de la difficulté. De temps en temps, j'écris le samedi. Moi, samedi, dimanche, j'écris pour moi. Et je me mets des fois un peu de René. Mais c'est, comme on dit, c'est malaisant. Je suis pas complètement à l'aise.
Oui.
Non, j'allais simplement dire que... Mais je suis conscient de la force de René, de donner de la joie, quoi. Il essaime la joie.
Le personnage a été quand même bien choyé par le public québécois à son retour après toutes ces années de silence.
Oui, mais bien sûr. Mais c'était inimaginable ce qui s'est passé à Montréal en 83. Je crois de mémoire que les gens l'ont applaudi 19 minutes à la fin. Et que les gens ne croyaient pas qu'il ne revenait pas.
Mais ce passage au Québec a aussi ouvert la voie ensuite en France.
Ah, ben c'était le déclencheur.
Ça a été le déclencheur.
Ça lui a redonné confiance en lui. Puis bon, il a fallu que je trouve une petite astuce pour la faire remonter sur les planches à Paris. Puis j'ai été convaincu que les champagnes Moum, qui lançaient un nouveau champagne, le Moum de Moum, de financer un soir de gala où René était la vedette. Mais j'avais 2000 invités, c'était dans un grand théâtre parisien. Et René, parce que c'était Moum qui payait tout, a eu l'intelligence de faire sa fameuse chanson Boum, la transformer en Moum. Mon petit cœur fait Moum. Et puis bon, ça leur a coûté 250 000 francs, ça, cette histoire-là. Mais le fait est que René a vu que tout revenait comme dans le bon vieux temps.
Mais ça a été tellement formidable aussi, parce que bon, il y a eu ce succès Moum, mais en France, en 87, au printemps de Bourges, il y a ce festival qui est un peu rock, et pour ne pas dire très rock, et Jacques Higelin, qui était aussi un fan inconditionnel de René, a réussi à faire de lui une mégastar au printemps de 87. Et je pense que, comme vous le dites, probablement René a repris goût à la vie de la chanson, parce qu'il était âgé à ce moment-là, en 1913. Alors, il y avait quoi, 74 ans?
Oui, à peu près, oui.
Alors,
mais il était très vert. Hein? C'est un homme qui, même dans 85, montait des escaliers en courant. C'était très impressionnant, sa force. C'était une force de nature. Mais quand je l'ai ramené à Paris, il fallait vendre des billets. C'est ça qui angoissait Trenet. C'était pas de faire un gala devant un public conquis. C'était de voir s'il y avait encore une force d'attraction.
Il en doutait?
Ah oui, parce qu'il avait vécu des années très dures. Moi, j'ai eu ces conversations-là avec Gilles Vigneault, je les ai eues avec des grands personnages qui se faisaient lancer des pièces de monnaie sur scène. Tu sais, ça fait mal de recevoir une pièce de monnaie. tu crois que tu es une star, puis là, tu as un mauvais passage dans ta vie, bien, on l'a tous vu ça. Je veux dire, je vous apprends rien que nos plus grandes stars d'ici ont eu des passages. J'ai été chercher Léo Ferret à Paris, il n'était pas 100 dans la salle. Pas 100. Je l'ai amené ici à Montréal, on remplissait la Place des Arts. J'ai fait la même chose avec Barbara, j'ai fait la même chose avec Reggiani. Alors, il y a des artistes, tout à coup, qui ont des très mauvaises périodes, et arrive quelqu'un comme moi ou un autre producteur, puis trouve l'angle pour refaire comprendre aux gens ce qu'ils sont vraiment, qu'ils sont des légendes.
Fondamentalement, qu'est-ce qui vous pousse à aller chercher ces gens, à les faire renaître?
Ah, bon, moi, je pense que c'est l'injustice. Moi, j'arrive pas
à... Vous êtes sensible à ça.
Ah, Trenet, pour moi, j'ai presque fait une campagne électorale. C'était du porte-à-porte. J'allais voir chaque producteur, chaque animateur d'émissions de télé, puis je faisais écouter du Trenet, mais je vous rendez-vous compte que c'est votre plus grand chanteur, votre plus grande vedette, et que là, tout à coup, il n'est plus dans l'actualité. Ça veut dire quoi? Puis un par un, et puis ça commence par une émission, puis un autre, puis un spectacle. Puis tout à coup, une première, puis tout le monde est là, puis tout à coup, ça explose. Ça va très vite, hein? Ça passe de rien à la folie, en quelques jours, des fois.
On va écouter Robert Charlebois, c'était au Théâtre de l'Étoile, et Charles Trenet était dans la salle, un petit montage, Robert Charlebois, Charles Trenet, Voyage au Canada.
Bon, alors, je compte sur vous dans les refrains pour m'aider, et puis je compte surtout sur M. Trenet pour me souffler. Une famille des plus charmantes, trois enfants, maman, papa, partit un beau jour de Nantes pour visiter le Canada. Fixant leur itinéraire, après maintes réflexions, ils choisirent pas ordinaire ces moyens de locomotion. C'est ainsi qu'avant de partir, ils chantaient pour se divertir. Nous irons, ouais. Nous irons à Toronto, en auto, en auto. Nous irons à Montréal, à cheval, à cheval. Nous traverserons Québec, à pied sec,
à pied sec.
Nous irons à Ottawa, en wawa,
à wawa.
Nous irons à Valleyfield, sur un fil,
sur un fil.
Nous irons à Trois-Rivières, en litière,
en litière.
Passant par Chicoutimi, endormi,
endormi.
Nous irons au lac Saint-Jean, en nageant. Un beau voyage, voilà, voilà, un beau voyage au Canada.
Oui, mais parfois c'est étrange, on ne fait pas toujours ce qu'on veut. Bien souvent le hasard change nos projets les plus heureux. Nos amis furent, c'est pas de chance, victimes d'une distraction du chef du bureau de l'agence, des moyens de locomotion, et à cause d'un employé qui s'était trompé de billet. Ils allèrent à Toronto en nageant. Ils allèrent à Montréal endormis. Ils se rendirent à Québec en litière. Ils allèrent à Ottawa sur un fil. Ils allèrent à Valleyfield à pied sec. Ils allèrent à Trois-Rivières en wawa. Passant par Chicoutimi,
un cheval.
Ils plongèrent dans lac Saint-Jean en auto. Voilà, voilà. Un beau voyage, voilà, voilà, un beau voyage au Canada.
Si j'avais les ailes, ben non. Voilà, voilà, un beau voyage, voilà, voilà, un beau voyage.
Gilbert Rozon, Robert Charlebois, c'est une autre grande...
En plus, c'est un ami. Alors moi, Robert, c'est tellement un bon garçon.
On ouvre la voie sur la saison qui va bientôt s'amorcer, en juillet.
Avec Grease, une grosse comédie musicale, avec les Trois Mousquetaires. Vous savez, je me fais plaisir maintenant. L'année dernière, je vais Cyrano, c'était mon rêve.
C'est ça, c'est une tendance que vous avez développée, ouais, de faire du grand théâtre.
Oui, bon, on l'a déjà fait, mais là, on a quand même le goût avec Lorraine Pintard du TNM, avec Serge Denoncourt, qui est comme au sommet de son art, de proposer 5 grands textes de théâtre. Cette année, c'est bon, là, vous le savez, je vais vous donner un scoop, l'an prochain, ça va être Roméo et Juliette. Donc, on travaille sur vraiment des projets de grands textes, et des choses de cap et d'épée, que ça soit épique. C'est ça, on se fait plaisir.
Vous avez parlé tantôt des doutes ou des angoisses de Trenet. Est-ce qu'il vous arrive à vous aussi, après 33 ans, d'avoir des doutes et des angoisses?
Oh mon Dieu, ce qui m'arrive de pire, parce que j'ai une bonne moyenne au bâton, on fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de succès. De temps en temps, quand on se trompe, c'est pas l'argent qu'on perd, c'est la confiance en soi. parce qu'on on est jugé sur son pif. Et ça va plus loin que ça. Moi, je trouve que c'est une responsabilité. Quand on vend un billet à quelqu'un, je suis toujours conscient que la personne, après une gardienne, est allée au restaurant, se stationne, s'est donné le mal d'acheter le billet. Puis si je vais passer deux heures, qui sait pas... Alors moi, quand j'ai un mauvais spectacle, je suis le premier à aller le dire aux médias de pas venir. Parce que je trouve ça insupportable de présenter un spectacle qui n'est pas au point.
Êtes-vous un bon ou un mauvais public, à la lumière de ce que vous nous dites?
Je suis un public très exigeant, parce que j'en ai trop vu. Alors, c'est certain que j'ai un niveau d'exigence qui est fou, et je vois que les erreurs.
Est-ce que, alors, dans ce cas, ça doit être difficile d'être un artiste et de participer au festival, sachant que le producteur est très exigeant?
Mais je ne suis pas toujours là, hein? Non, mais il y a des choses que je me dis que c'est pas...
La recherche de l'excellence.
Oui, c'est ça, parce que tu peux t'arrives, la perfection, ça t'arrive de temps en temps, tu touches les étoiles, tu ne sais pas pourquoi... Mais la quête d'excellence, elle est absolument essentielle. Parce qu'on les voit, les erreurs. Hein? C'est comme... Vous savez, dans le fond, mon métier, c'est d'être un spectateur intelligent. C'est juste de ressentir et de dire... Là, il y a 10 secondes, j'étais en train de penser à ma liste d'épicerie. C'est pas normal. Je devrais être concentré. Là.
L'êtes-vous beaucoup à l'égard de vous-même?
Ben oui, c'est certain.
On a effleuré la semaine dernière l'aspect politique. Vous aviez imaginé peut-être faire le saut sur l'île de Montréal, à la mairie. Mais vous avez poussé ça plus loin, vous avez rencontré Denis Coderre qui avait aussi manifesté son intention. C'est probablement ce qui vous a fait prendre conscience que ce n'était pas le moment.
Mais c'est-à-dire, il s'est passé deux choses. Je suis revenu d'un long voyage en Chine et j'étais à côté de M. Jean Chrétien. Et j'ai demandé si je serais un bon candidat. Il m'a dit oui, il serait bon, mais est-ce que, bon, tu as tous les appuis, les moyens, etc. Hein? Puis je dis oui, je réponds à ça. Mais je dis, soit dit en passant, un de vos anciens ministres a manifesté peut-être l'intention de venir, Denis Coderre. Il dit, il serait formidable. Il dit, c'est un homme de proximité. Il dit, c'est un fils de menuisier. Mon père était menuisier, donc j'étais sensible à ça. Alors, je dis, ah bon, hein? Moi, je connaissais un peu Denis, mais pas... c'est pas mon chum, là. Alors, j'ai décidé de le rencontrer, puis trois reprises, pour me parler de sa vision de Montréal. Et je me suis dit, à la fin, il va être meilleur que toi. Je me suis dit, il va faire un meilleur job que moi. D'abord, il connaît ça. Il a fait de la politique, il a envie, il en mange, il aime ça. C'est un gars qui a des bonnes études, qui est intelligent, puis qui aime le monde. Tu vas aller faire quoi, toi, là? C'est pour ton orgueil que tu vas là ou tu vas pour aider ta ville?
Et depuis qu'il est là, vous n'avez pas de folle complainte à son égard?
Bonne façon d'amener la chanson, quel beau lien. La folle complainte, soit dit en passant, cette chanson-là, là. Moi, j'ai fait des centaines de galas avec Trenet, des spectacles, évidemment, je l'accompagnais tous les soirs. C'est la seule chanson dont je ne me suis jamais lassé. Jamais. Toutes les lacets, à un moment donné, toutes les chansons, tu finis pour te dire, bon, celle-là, ce soir, là, je m'en passerai. Mais celle-là, jamais. Et puis, elle a une histoire. C'est Trenet, très enfant, sous la table, ce qu'il voit à cette époque-là. Alors, c'est un voyage dans le temps.
Les jours de repassage dans la maison qui dort, la bonne n'est pas sage, mais on la garde encore. On l'a trouvée hier soir derrière la porte de bois, avec une passoire se donnant de la joie. La barbe de grand-père a tout remis en ordre, mais la bonne en colère a bien failli le mordre. Il pleut sur les ardoises, il pleut sur la basse-cour, il pleut sur les framboises, il pleut sur mon amour. La revanche des orages a fait de la maison un tendre paysage pour les petits garçons qui brûlent d'impatience deux jours avant Noël et sans aucune méfiance acceptent tout pêle-mêle. La ville, la mort, les squares et les trains électriques, les larmes dans les gares guignolent et les coups de trique, les becs d'acétylène aux enfants assistés et le sourire d'Hélène par un beau soir d'été. Donnez-moi quatre planches pour me faire un cercueil. Il est tombé de la branche, le gentil écureuil. Je n'ai pas aimé ma mère, je n'ai pas aimé mon sort, je n'ai pas aimé la guerre, n'ai pas aimé la mort. Je n'ai jamais su dire pourquoi j'étais distrait. Je n'ai pas su sourire à tel ou tel attrait. J'étais seul sur les routes, sans dire ni oui ni non. Mon âme s'est dissoute. Poussière était mon nom.
La folle complainte, Charles Trenet. Vous savez, Gilbert Rozon, qui est avec nous, quand on vous a présenté, on a cité un écrivain américain, Ralph Waldo Emerson. J'aimerais ça juste avoir un bref commentaire. Je vais vous donner quelques citations de cet écrivain. Puis qu'est-ce que ça évoque ou qu'est-ce que ça fait surgir en vous? Emerson a dit « C'est au cœur des ténèbres que l'homme voit le mieux les étoiles.
» Oui, c'est dans les périodes très noires ou les périodes de dépression ou d'introspection qu'on sait où on va et qui on est.
Et ça vous arrive?
Ça m'est arrivé, bien sûr. J'ai eu quelques dépressions dans ma vie.
Celui qui veut tirer des enseignements de ses erreurs doit chaque jour apprendre à surmonter ses craintes.
Cela, je le comprends moins bien.
Il y en a eu quelques erreurs quand même.
Mais moi, il y a un truc qui, par rapport à ce que vous dites, moi, je ne sais pas si vous vous souvenez du soldat Ryan,
oui.
de Tom Hanks qui joue le gars hyper énervé puis qui après ça devient un patron. J'ai toujours vécu ça. J'ai très peur, mais je fonce.
Alors peut-être que la prochaine vous sied bien. La confiance en soi est le premier secret du succès. La confiance en soi et autres essais.
Ouais. Moi, j'ai jamais... Encore une fois, j'ai une fausse confiance en moi. Je doute énormément. Je pense que je suis un imposteur, mais je mets quand même un pied devant l'autre. Tu sais, dans le fond, pour aller d'un point à l'autre, il faut juste mettre un pied l'un devant l'autre.
Imposteur, je retiens celle-là pour vous proposer la suivante. Qu'est-ce qu'une mauvaise herbe, sinon une plante dont on n'a pas encore découvert les vertus?
Oui, ça s'applique bien à moi, là.
Et la toute dernière, n'allez pas où le chemin peut mener, allez là où il n'y a pas de chemin et laissez surtout une trace.
Ah, ça, c'est formidable. Moi, je crois beaucoup qu'il faut être un libre penseur, qu'il faut sortir des sentiers battus. J'ai essayé d'enseigner ça à mes enfants, de ne pas suivre la meute. Des fois, seul, il y a 1000 personnes qui ont tort et t'es seul. Il faut que tu suives ta conviction. Ça, c'est l'affaire la plus dure dans la vie à concevoir, c'est de penser librement, de ne pas se laisser polluer l'esprit. Oui, écoutez tout, mais à un moment donné, décide, élève-toi. Parce que c'est le danger d'être tiré vers le bas.
Gilbert Rozon, le temps nous glisse entre les doigts, vous savez ce que c'est. Vos projets?
Ah, mais mes projets, c'est de continuer à construire Juste pour rire, que ça ait du sens, élever ma famille, livrer un 375e et un 150e.
Ça, c'est le gros projet, là.
C'est énorme. C'est l'œuvre d'une vie, pratiquement. Parce que c'est au service des autres. Alors, quand je travaille pour moi, si je me trompe, c'est moi que je punis. Mais quand les autres t'attendent, je suis comme l'autre. Je veux bien recevoir.
Est-ce qu'il y a de la place dans la vie de Gilbert Rozon pour lui-même, pour le rire?
Ah oui, je ris beaucoup. Je ris tous les jours. Je suis un gars très sérieux, mais j'ai absolument besoin de déconner pour me rappeler que je suis en train de devenir trop sérieux. C'est mon espèce de contrepoids. Parce que sinon, c'est vrai que je peux être plate, avoir un mauvais caractère, avoir des sautes d'humeur, je peux être des fois raide. J'aime pas. Il y a un Gilbert Rozon que j'aime pas. Mais j'arrive toujours à l'atténuer avec mes bêtises.
Mais celui qu'on a vu ou entendu au cours des deux dernières semaines a été vraiment fort sympathique. On vous remercie de cette présence. Ça a été très agréable.
Je vous remercie.
Et plein de succès pour la suite des choses. Et on va se laisser, si vous voulez bien, avec un commentaire de Trenet sur le rire, justement. Le temps de vous dire que cette émission a été réalisée sous la supervision technique de Serge Plaisance, à l'animation-réalisation Armand Dubois qui vous parle et qui vous souhaite de passer une excellente journée et une excellente semaine à notre antenne. Et encore une fois, Gilbert Rozon, merci beaucoup.
Riez pour moi.
Le rire, c'est une chose qui manifeste quand même le bien-être, la détente de tous les nerfs. Le rire, c'est une espèce de drogue pure, mais vraiment pure dans le sens de pur, qui ne fait pas de mal. Au contraire, ça fait du bien de rire. Personne qui ne rit pas sont malades, certainement. D'ailleurs, les fous ne rient jamais. Ou alors ils ont un rire comme ça, maladie. Mais le... ça fait du bien.
Juste pour rire, juste pour rire, juste pour rire un petit peu. Juste pour rire, une heure ou deux, et puis se dire, bon Dieu, ça va mieux. De voir la vie, l'âme ravie, par quelques mots, quelques jeux, dans un délire des plus chaleureux. Juste pour rire, juste pour rire, juste pour rire un petit peu. La joie de vivre, elle doit nous suivre, à nous de savoir quand on veut. Car rien n'est pire que d'être malheureux, tandis qu'en rire, c'est merveilleux. Juste pour rire, juste pour rire, juste pour rire, ah ah ah.